France Inter,
franceinter.com.
Cavalier du 7e, l'heure de la victoire a sonné. En avant, vers Little Big Horn. Victoire au 7e, donnez la chance.
Ans d'histoire. Quand ils sont arrivés sur les lieux de la bataille le 27 juin 1876 près de la Little Big Horn, les soldats du capitaine Bentinck ne trouvèrent qu'un seul survivant, un cheval du 7e régiment de cavalerie qui marchait au milieu de plus de 200 cadavres. Deux jours plus tôt, les Indiens de Sitting Bull et de Crazy Horse les avait massacrés après avoir infligé à l'armée américaine une des défaites les plus humiliantes de son histoire. C'était dans le Montana, quelque part au pied des Rocheuses, le 25 juin 1876. Ce matin-là, un héros de la guerre de sécession et des guerres indiennes, le général George Armstrong Custer, était arrivé en vue d'un camp de Sioux et de Cheyenne, installé tout près d'une rivière dont le nom allait entrer dans l'histoire.
Bonjour, général. Giovanni Martini, ordonnance aujourd'hui. Les éclaireurs, ils disent que c'est possible de voir le village.
Beaucoup, beaucoup, Otacio.
Bon, je crois qu'on les écrasera tous en un seul jour.
Où se trouvent ces hostiles?
Là-bas, à l'ouest de l'horizon, monsieur. Au pied de la petite falaise, c'est la vallée de la Little Big Horn. Le village est là.
Sergent-major! Rassemblement! Faites sonner l'appel des officiers!
Sonnez le rassemblement!
Et c'était l'extrait d'un des nombreux westerns qui se sont inspirés de la plus célèbre bataille des guerres indiennes, la bataille de la Little Big Horn, à laquelle mon invité d'aujourd'hui a consacré un livre. Il a 24 ans, il est suisse. David Cornu, bonjour.
Bonjour.
Et dans votre livre, vous rappelez donc tous les détails de cette bataille qui a fait 263 morts, c'est ce que vous dites, c'est le chiffre que vous donnez. C'est-à-dire beaucoup moins que les grandes batailles comme Verdun, ou même d'ailleurs les grandes batailles de la guerre de sécession. 263 morts, et pourtant, vous l'écrivez, c'est un mythe fondateur de l'identité américaine.
Alors, il faut se remettre dans le contexte. Little Big Horn, c'est le jour même du centenaire de l'indépendance des États-Unis. Mmh. À cette époque, les États-Unis croient qu'ils ont l'avenir dans leurs mains. Et les Indiens représentent pour les Américains quelque chose de rétrograde. Et les Américains ne peuvent pas imaginer comment un homme comme Custer, leur héros, puisse tomber dans les mains de quelqu'un qu'on considère comme inférieur. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on est 11 ans après la guerre de sécession. Et les Américains se demandent s'ils pourront passer le siècle. Mmh. Donc ils sont extrêmement choqués. On peut comparer ce choc à l'assassinat de Kennedy ou même au 11 septembre.
Oui. Alors on y reviendra justement. Vous évoquiez Custer, c'était effectivement un héros national avant même que la bataille commence. Vous rappelez qu'il était encore assez jeune. Il est né dans l'Ohio en 1839, attiré très tôt par l'armée. Il entre à West Point. Il ne fait pas une carrière très brillante. D'ailleurs, à West Point, il sort 34e sur 34.
Hein. Oui, alors le général Custer, le problème, c'est que ce n'est pas qu'il n'est pas brillant, c'est qu'il est extrêmement bouillant. Et la sévérité de West Point ne correspond pas du tout à son attitude, à son caractère. Ce qui fait qu'il est obligé d'enfreindre les règles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le général Custer a réussi à obtenir son diplôme dans une académie aussi prestigieuse que West Point. Mmh. Tout en faisant le pitre, il a failli se faire exclure des dizaines de fois. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était un soldat né qui n'arrivait pas à être dans le carcan de West Point.
Et en revanche, qui va se distinguer pendant la guerre de sécession. C'est à ce moment-là qu'il devient extrêmement célèbre, David Cornu.
Ah oui, alors là, il explose véritablement. Il devient une véritable rockstar dans toute l'Est des États-Unis. Il gagne pas moins de 23 victoires extrêmement importantes et il passe du rang de capitaine au rang de général de division, commandant 5000 hommes.
Le plus jeune général de toute l'histoire de l'armée américaine.
Oui, à 23 ans, il est général de brigade et à 25 ans, il est général de division. C'est absolument exceptionnel. Ça s'est jamais vu.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Cela dit, ça se faisait souvent. Lorsque la guerre de sécession se termine, il reste dans l'armée, mais avec un grade inférieur.
Oui, ça c'est normal parce que les rangs de l'armée américaine doivent être dégrossis. Or, le général Custer, c'est quelqu'un qui a été monté en grade pendant la guerre de sécession. Et là, il faut ramener les effectifs à la baisse. Donc, on dit au général Custer, on reconnaît ce que vous avez fait pendant la guerre de sécession. On va vous donner un grade beaucoup plus grand que ce que vous pourriez avoir à votre âge. À 25 ans, on le fait lieutenant-colonel. Mais on est obligé de vous rétrograder. C'est obligatoire.
Et donc, il reprend du service dans l'armée, non plus cette fois-ci contre les sudistes, parce qu'il se battait dans les rangs des nordistes, mais cette fois-ci contre les Indiens.
I'm George Armstrong Custer, an officer in the United States Army. I'm a soldier. I know you got human rights, treaty rights, moral rights.
Je sais que vous avez des droits humains, des droits par les traités, des droits moraux. Mais je ne suis pas un politicien, ni un moraliste, ni un prédicateur. Je suis un soldat. Les seuls droits qui m'intéressent sont ceux de mes soldats. Le seul devoir qui m'intéresse est celui de ma charge. Qu'on ait l'air de vous chasser de vos terres n'est plus de ma responsabilité. C'est l'histoire. Vous êtes un peuple militairement vaincu. Vous payez les conséquences de votre refus du progrès. Vous comprenez? Je comprends.
Et c'était l'extrait d'un film de Robert Siodmak, Custer the West, un dialogue donc imaginaire sans doute entre Custer et un chef indien, totalement imaginaire. Ouais. Cela dit, vous le répétez à plusieurs reprises, on a beaucoup dit que Custer était une brute, méprisait les Indiens, c'est pas vrai du tout. Les Indiens, les chefs les plus importants, il a eu en face de lui quand même Sitting Bull, hein, que tous les amateurs de Western connaissent, il disait les hommes de longs cheveux, c'est le surnom qu'on lui donnait, faisaient partie des plus braves que j'ai jamais combattus.
Et même, parce qu'il faut voir aussi les témoignages des Indiens qui l'ont côtoyé. Parce que Sitting Bull, il parlait uniquement de la bataille, de ce qu'il avait lu de loin, la bravo de Custer. Mais par exemple, tous les éclaireurs indiens ont témoigné que Custer assistait à leur cérémonie et leur rappelait lorsqu'ils avaient oublié quelque chose. Donc c'est assez incroyable. C'est quelqu'un d'extrêmement curieux. Et l'image qu'on a de Custer, c'est uniquement symbolique. On a fait le symbole du colonialisme américain, tout ce qu'il y avait de mauvais dans le colonialisme, et on l'a greffé sur la figure la plus célèbre, le général Custer. Mais le Custer humain, le Custer historique, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rapports avec les Indiens, qui avait beaucoup d'amis chez les Indiens, qui les connaissait énormément, qui connaissait le langage des signes, l'avait appris le langage des signes, l'avait appris leur culture. Ce fait que quand il arrivait durant chacune de ces batailles, il savait exactement comment parler avec un Indien, et comment même se comporter en Indien.
Alors que ça, c'était contrairement, par exemple, à un certain nombre de généraux, d'officiers généraux. Je pense au général Sheridan, qui était le commandant en chef des forces armées américaines dans les Grandes Plaines, celui qui a livré, qui disait « un bon Indien est un Indien mort ». Ce n'était pas du tout le cas de Custer, cela dit. Quand même, c'est un homme qui, dans la guerre à laquelle il a participé contre les Indiens, était très brutal. Vous évoquez, par exemple, une bataille en 1868, la bataille de Ouachita, et il y a eu un massacre de camp de Cheyenne sous les ordres de Custer.
La Ouachita, ce qu'il faut voir, c'est que les Cheyennes avaient attaqué des pionniers dans le Kansas, et les ordres du général Custer, c'était littéralement de raser le village, c'est-à-dire de brûler tous les tipis et de ramener des prisonniers. Je ne dirais pas massacre, je dirais plutôt bataille, mais ce qu'il faut voir, c'est que avec nos yeux d'aujourd'hui, une bataille des guerres indiennes est nécessairement brutale. Parce que les ordres sont définitifs. Les ordres, c'est brûler tous les tipis, brûler toutes les réserves et ramener les prisonniers. C'est extrêmement brutal. On appelle ça un raid. C'est ce que faisaient les Indiens sur les pionniers. Et c'est ce que, œil pour œil, dent pour dent, l'armée répondait en lançant un raid sur un village indien.
Alors ça, c'était dans Ouachita en 1868, l'année où est conclu un traité très important, un traité de paix entre les Indiens et le gouvernement américain, le traité de Fort Laramie. Alors, ce traité est très important pour ceux qui allaient suivre, parce qu'il fait des concessions aux Indiens. Cela dit, quand même, il leur accorde une grande réserve à l'ouest du Mississippi, David Cornu.
Oui, alors ça, c'est un traité extrêmement important, parce qu'il concrétise la première grande victoire des Sioux. C'est la première fois que les Indiens contraignent le gouvernement américain à signer un traité. Toutes les fois précédentes, le gouvernement américain leur donnait, signait un traité pour faire une trêve. Là, c'est les Indiens qui l'ont obligé. Ils ont dit, aux guerriers de Red Cloud. Ils ont dit, vous arrêtez le combat et on vous donne une immense réserve dans le Dakota du Sud et dans le Dakota du Nord. Une immense réserve où vous, dont vous ne devrez jamais sortir et nous, on vous fournira des marchandises. Ça, c'est en théorie.
Alors là, il y a également un endroit très important pour eux, pour les Indiens, qui est considéré comme un lieu sacré. Ce sont ce qu'on appelle les Black Hills, hein, des collines, tout un ensemble de petites montagnes. Les Black Hills qui sont sacrés et qui sont préservés. En principe, personne, enfin, c'est le gouvernement américain qui le garde sous son autorité. Aucun pionnier ne doit s'y installer.
Ouais, alors là, il faut voir la vision des Américains. Le fait d'envoyer des troupes dans les Black Hills ou le fait de menacer les Black Hills, c'est extrêmement important. Parce que le gouvernement américain savait très bien qu'il rentrerait en guerre contre les Sioux en faisant cela. Il savait très bien que d'avoir en ligne de mire les Black Hills permettrait outragerait les Indiens. Parce que les Black Hills, c'est où les ancêtres sont enterrés. C'est les terres les plus sacrées des plaines. Et les Indiens sont évidemment extrêmement choqués si, par hasard... les civils ou des soldats entrent dans ces terres.
Alors c'est ce qui ne se passe pas jusqu'au moment où on découvre de l'or dans les Black Hills. Alors évidemment, tout de suite, on voit débarquer des tas de prospecteurs, ce qui scandalise les Indiens et ce qui va provoquer entre les prospecteurs et les Indiens des affrontements terribles.
Des affrontements, David Cornu. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que l'armée envoie Custer dans les Black Hills, ouvre les Black Hills aux prospecteurs, tout en sachant que ça va mener à la guerre. Et faut se mettre dans le contexte. Les États-Unis, à cette époque-là, ils ont une immense crise économique. Ce qui fait que la Maison-Blanche voit dans les Black Hills une sorte d'Eldorado. Elle offre un Eldorado à ses citoyens pour leur faire oublier cette crise économique. Et évidemment, ça provoque des heurts avec les Indiens. C'est le pire outrage qu'ils pouvaient faire. Et ils le savent très bien.
Si bien qu'en 1875, d'ailleurs, ce que va refuser Sitting Bull, le président des États-Unis, qui est le général Grant, cherche à renégocier justement le traité de Fort Laramie.
Ils ne céderont jamais le territoire des Black Hills. Dans ce cas, lançons-leur un ultimatum. Tout Indien devra se présenter au bureau d'enregistrement d'ici le 31 janvier.
Si cette requête n'est pas observée, si les Indiens refusent de se présenter, la Commission des Affaires indiennes remettra le problème des hostiles entre les mains du ministère de la Guerre, lequel engagera une campagne visant à contenir les hostiles ainsi qu'à les renvoyer dans les réserves et de par ce fait sous la juridiction des États-Unis d'Amérique.
Les opérations militaires pour être entamé n'importe quand. D'après le ministère de la Guerre, une telle action finira par devenir nécessaire. Nous tuons les Indiens depuis une centaine d'années. Il faut en finir une bonne fois. Je veux Custer pour mener l'expédition. Nous avons besoin d'une machine à tuer.
Vous ne pourrez pas trouver mieux.
If you want to be a soldier, join the 7th Cavalry. Learn to fight with General Custer, learn to fight for Kentucky. You must fight for Oklahoma, Kansas, Maine, and Tennessee. You must fight for Pennsylvania, you must fight for Missouri. You want to be a soldier, you must fight for glory, oh. You must fight with General Custer, you must fight for Idaho. You must fight for Massachusetts, Michigan, and Delaware. You must fight for Indiana, you must fight for Ohio.
You want to be a soldier, join the 7th Cavalry. Learn to fight General Custer, learn to fight for Kentucky. You must fight for Oklahoma, Kansas, Maine, and Tennessee. You must fight for Pennsylvania.
Et en 1876, donc, Custer reprenait du service dans l'armée et à la tête de son régiment célèbre, aussi célèbre que lui, le 7e de cavalerie. Il a fait des pieds et des mains pour reprendre encore du service, pour se battre à nouveau, parce qu'il était très mal vu du président des États-Unis.
Il s'est mis dans un sacré pétrin, le général Custer, parce que avant avant la campagne de 1876, il a dit au président Grant et à toute l'administration qu'il n'était pas d'accord avec les réserves indiennes et avec le traitement de l'armée. Il faut savoir que dans les réserves indiennes, il y avait une telle corruption que les Indiens, souvent, pendant l'hiver, ils étaient réduits à devenir vagabonds. Et Custer a dit, si vous voulez la guerre, le meilleur moyen de faire d'avoir la guerre de la part des Indiens, c'est de les affamer. Vous l'aurez immédiatement. Et c'est exactement ce qui se passe. Ouais. Parce qu'au printemps, quand Custer veut reprendre le 7e de cavalerie, les Indiens sont entrés en guerre. Et le président Grant est tellement ivre de rage parce que... Custer
l'avait prévenu.
Oui, puis Custer accuse les membres, précisément par le nom, il accuse le propre frère du président Grant de corruption.
Ouais.
Et le président Grant est tellement fâché qu'il dit... Custer ne reprendra pas les rênes du 7e de cavalerie. Et finalement, lui, vu que c'est le meilleur combattant d'Indiens, finalement, l'armée le prend parce qu'elle a besoin de lui.
Oui, c'est le général Sheridan qui insiste. Alors, Sheridan, d'abord, il s'agit d'essayer d'empêcher, mais ils ne vont pas y arriver, d'empêcher les prospecteurs de s'installer dans les Black Hills. Et comme on n'y parvient pas, on essaye de négocier justement un nouveau traité avec eux. Les Indiens, beaucoup d'Indiens, les Sioux et les Cheyennes refusent. C'est là d'ailleurs que Sitting Bull, que Red Cloud, enfin je ne sais plus quels étaient ceux qui étaient avec Sitting Bull, refusent. Et ils vont disparaître. D'abord, ils vont à plusieurs reprises attaquer des pionniers. Et puis, ils vont disparaître un peu dans la nature. Et c'est pour les chercher que le général Sheridan organise une grande campagne avec... Trois généraux hein, qui doivent
trois
prendre
colonnes.
En tenaille, trois colonels, oui.
Il y a trois colonnes d'armée. On pense que les Indiens sont quelque part dans la vallée de la Little Bighorn ou dans ses alentours, mais ça fait des milliers de kilomètres. Ce qui fait qu'on décide de faire trois colonnes qui chercheront ces Indiens et qui convergeront vers le lieu supposé où sont les Indiens hostiles, entre guillemets.
Alors, trois colonnes. Il y en a une qui est dirigée par le colonel Gibbon, qui vient de l'Ouest. Il y a le général Crook, qui, lui, va subir déjà, non pas vraiment une défaite, mais enfin, il est repoussé par les Indiens, qui, brusquement, sont encouragés. Voilà que Sitting Bull se dit, mais tiens, on peut battre
les Blancs. Ah oui, là, c'est... En fait, Crook a été complètement surpris par l'agressivité d'un jeune chef de guerre qui s'appelle Crazy Horse. Lui, il s'est rendu compte que la meilleure façon de combattre les Blancs, c'était de combattre avec un grand nombre, mais surtout très agressivement. Et on retrouvera ça à Little Bighorn. Ce qui fait que Crook était tellement surpris que même s'il avait l'avantage numérique et l'avantage sur le terrain, il a reculé. Et là, c'est une des pièces du puzzle qui part.
Et il y a donc une troisième colonne qui, elle, vient de l'Est. Hein, et c'est celle où la colonne du général Terry. Et c'est là que se trouve, dans cette colonne, que se trouve le colonel, général Custer, hein, tout le monde l'appelle encore général, et qui est envoyé à la recherche donc de ce camp des Sioux, hein, de Sitting Bull, qui se trouve quelque part près de la Little Bighorn. Il a 600 hommes, hein, son 7e régiment de cavalerie a 600 hommes, et il y a à ses côtés deux hommes, et c'est très important pour l'avenir, qui le détestent. Hein. Il y a le capitaine Bentin et le major Reynaud, et il ne s'entend pas du tout avec eux.
Non, alors il faut voir, le major Reynaud, le capitaine Bentin, c'est les antithèses totales de Custer. Déjà, ils sont plus vieux que lui. Ça provoque déjà des tensions parce que Custer, c'est un peu le météorite de l'armée. C'est un homme très jeune qui arrive très haut. Et aussi, le major Reynaud n'a jamais participé à des combats. Il a fait quasiment que du travail d'état-major. Et le capitaine Bentin, c'est quelqu'un d'extrêmement jaloux, de pathologiquement jaloux. Quelqu'un qui déteste quasiment tout le monde dans le régiment. C'est fait que ces deux personnes-là ne peuvent pas travailler avec Custer. Ils sont obligés, mais ils ne peuvent pas.
Et c'est avec lui donc qu'ils arrivent le 25 juin 1876 devant le camp des Indiens, qu'ils découvrent le camp des Sioux. Et à ce moment-là, Custer divise son 7e de cavalerie, les 600 hommes de sa cavalerie, avant d'attaquer les Indiens.
Capitaine Bentin, en tête de colonne! Vous allez faire obliquer votre bataillon sur la gauche selon un angle d'environ 45 degrés. Vous attaquerez tout ce que vous verrez devant vous. Balayez-moi tout ce que vous trouverez.
Et ne devrions-nous pas éviter de diviser le régiment, général? Si ce village est aussi important qu'ils le disent, nous avons besoin de tous nos hommes.
Vous avez vos ordres.
Colonne, halte!
Ordre au major Reynaud. Le village est devant nous et les Indiens se dispersent. Il doit traverser la rivière et avancer aussi vite que la prudence le permettra. Il sera appuyé par toutes nos forces.
À vos ordres. Pour sonner la charge. Sonnez la charge.
Allez, les gars!
Chargez!
Et c'était le dimanche 25 juin 1876, le début de la bataille de la Little Bighorn, puisque c'est une rivière.
Il y a 132 ans, jour pour jour.
Oui, oui.
Et puis, presque heure pour heure.
Et là, à ce moment-là, laissant, on l'a entendu, sur sa droite, le major Reynaud, sur sa gauche, le capitaine Bentin, eh bien, il attaque par le centre, il attaque les Indiens. Et à partir de ce moment-là, on ne sait plus ce qui s'est passé, tout simplement parce que le groupe de Custer, avec 200 hommes environ, eh bien, il n'y aura aucun survivant.
C'est ce qu'on appelle le mystère de Little Bighorn, c'est-à-dire que toute l'affaire de Little Bighorn, qui passionne les Américains de façon extrêmement importante, c'est savoir qu'est-ce que Custer voulait faire, parce qu'on n'a pas retrouvé de plan écrit. C'était seulement des ordres oraux et des petits ordres écrits. Donc on ne sait pas ce qu'il voulait faire précisément, et on ne sait même pas comment les Indiens précisément ils ont réagi, parce qu'on n'a jamais réellement combiné leurs témoignages à eux. On a toujours considéré que les témoignages indiens étaient inutiles, voire confus. Or, c'est faux.
Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé à un moment donné du secours au major Reynaud, ou en tout cas au capitaine Bentin. Ils ne sont pas venus. Il s'est retrouvé seul avec ses 200 hommes au milieu d'un nombre d'Indiens qui est également indéterminé. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Reynaud lui-même se battait avec les Indiens. Bentin est venu à son secours, mais aucun des deux n'est venu au secours de Custer à ce moment-là.
Ça, c'est la clé de Little Bighorn. C'est de savoir pourquoi deux colonnes sur trois, donc on avait trois colonnes, pourquoi deux colonnes n'ont pas rejoint. Parce que le plan de Custer, c'était d'encercler les Indiens. C'était une sorte d'immense crochet de tous les côtés pour surprendre les Indiens, les diviser et les défaire individuellement. Et le major Reynaud et le capitaine Bentin n'ont pas du tout tenu leur front. Et toute l'affaire de Little Bighorn, c'est de savoir pourquoi et quelles preuves on a à propos de cette... est-ce qu'il y a des justifications?
Voilà, et qui a en tout cas abouti à un massacre que découvre le général Terry, qui arrive sur les lieux le 27 juin et qui retrouve là le capitaine Bentin et surtout le cadavre de Custer et de ses hommes, des 215 hommes qui étaient avec lui.
Regardez là-bas, sur la colline.
Des cadavres de chevaux, monsieur.
Les cavaliers approchent, monsieur.
C'est les nôtres.
C'est pas le capitaine Bentin, là?
Je crois bien, oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ce que je peux vous dire, mon général, c'est qu'on est content de vous voir.
Savez-vous où est Custer?
Nous sommes sans nouvelles de lui depuis dimanche après-midi, quand il nous a détachés pour continuer avec cinq compagnies.
Que s'est-il passé, capitaine Bentin?
Des erreurs ont été commises.
Le général George Armstrong Custer, ainsi que environ 265 membres de son régiment furent tués au combat face aux tribus indiennes hostiles près de la rivière Little Bighorn.
Et c'était la fin d'une bataille dont l'annonce a bouleversé les États-Unis. Vous dites que c'était l'équivalent pratiquement du 11 septembre.
Ah, c'était un scandale monumental. Ouais. Et ce qui a vraiment nourri le scandale aussi, c'est que justement le comportement de Bentin et Reynaud était tellement choquant, était tellement incompréhensible que l'armée a essayé d'étouffer cette affaire et elle a complètement refusé de faire une enquête. Ouais. Elle a mis sous clé des archives.
Jusqu'en 1951.
Oui, jusqu'en 1951. C'est assez incroyable.
Et vous-même, alors vous avez fait une enquête là-dessus pour démystifier tout ce qu'on a pu dire. On a dit que Custer, après l'avoir traité de héros, était un incompétent, qu'il était tombé dans une embuscade. On a dit de vous exagérer le nombre des Indiens pour justifier sa défaite. On a dit qu'ils étaient 6000, vous dites qu'il y en avait beaucoup moins. C'est assez étonnant. Au fond, c'est effectivement devenu un mythe, mais dont vous démontez un peu tous les mécanismes.
Ah oui, c'est un mythe. Cornu. C'est un mythe au pied d'argile, vraiment, parce que quand on élimine l'écran de fumée, quand on élimine le scénario cousu de fil blanc, on se rend compte que tout ce que l'on disait sur le général Custer, comme quoi ces éclaireurs indiens lui avaient dit n'attaquez surtout pas, c'est l'inverse, ils lui ont dit attaquez véritablement. On a dit qu'il n'attendait pas de soutien, c'est pas vrai, il en attendait, il a envoyé des ordres.
C'était un peu comme Grouchy qui n'est pas venu.
Exactement, seulement que là c'était
Napoléon.
Mais là c'était au fond, volontaire.
Oui, vous dites que ce que l'armée cherche à dissimuler, c'est la trahison de deux de ses officiers qui étaient Reynaud et Bentin parce qu'ils ne sont pas venus aider Custer parce qu'ils ne l'aimaient pas.
C'est un immense scandale et l'armée s'est retrouvée face au pire crime qu'on puisse faire dans le monde militaire.
Ouais.
Et il s'est, il a s'agi après, il s'est la conséquence de ce scandale, c'est qu'après, il a fallu mentir. Il a fallu multiplier le nombre des Indiens, trafiquer les cartes, cacher les archives, faire taire les témoins.
Autre conséquence, puisque vous avez parlé du 11 septembre, David Cornu, ça a eu un peu les mêmes effets. C'est-à-dire que le scandale provoqué par la mort, le massacre de ces soldats américains, eh bien, ça a tellement scandalisé les Américains que ça a servi ensuite au gouvernement des États-Unis pour justifier la violence avec laquelle se sont terminées les guerres indiennes.
Et d'ailleurs, il était très malin, le chef de l'armée, parce que quand il a eu ce scandale, le budget militaire était menacé. Or, le général Sherman, donc le plus haut gradé sur le terrain, il a dit « on va retourner la situation pour faire comme quoi l'armée a été victime du gouvernement qui ne l'avait pas assez payé ». Or, le budget militaire qui était menacé a été doublé et ils sont rentrés en guerre encore plus fort. Donc en fait, ils ont interverti ce qui devait être embarrassant pour l'armée est devenu extrêmement fructifiant.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que 14 ans plus tard, il y a eu le fameux massacre des derniers Sioux qui résistaient à Wounded Knee, 290 Indiens qui ont été massacrés par le 7e régiment de cavalerie, c'est-à-dire l'ancien régiment de Custer. Alors, aujourd'hui encore, ça reste gravé dans la mémoire des Américains. Vous le rappelez, David Cornu, il y a 500 000 personnes, dont vous faites partie d'ailleurs, qui vont visiter ce site. Vous l'avez vu vous-même. Et c'est très important dans la mémoire des États-Unis, y compris dans la mémoire d'un candidat à la présidence des États-Unis aujourd'hui.
Le candidat John McCain a le sabre du général Custer chez lui, à la maison.
Allez.
Et tous les traités signés avec les Sioux pour s'excuser ou pour rendre des terres ont été signés par John McCain. Donc c'est extrêmement important. Little Big Horn, c'est encore plus important que le Fort Alamo.
Oui, c'est pas une anecdote comme on la voit nous en France avec à travers le western.
Et puis d'ailleurs, même le général Custer n'est même pas une anecdote. Ici, on croit qu'il est célèbre parce qu'il est mort, mais aux États-Unis, il était célèbre quand il était vivant. Et en fait, il a été tué en pleine gloire. Alors les Américains, ça leur est resté. C'est vraiment une blessure au cœur.
Merci David Cornu. Pour en savoir plus, je recommande le travail très sérieux, très complet que vous avez fait justement sur cette bataille. Little Big Horn, autopsie d'une bataille légendaire qui a été publiée chez Hanovi dans une nouvelle édition revue et augmentée. À lire également l'Atlas historique des États-Unis de Frédéric Salmon publié chez Armand Collin et puis un livre sur le Western, une histoire parallèle des États-Unis de William Burton aux Presses universitaires de France. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Little Big Man d'Arthur Penn, disponible en DVD aux éditions Paramount, le fils de l'Étoile du Matin de Mike Robe et Custer of the West de Robert Siodmark, édité en DVD par MGM. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Mathias Alléon et Stéphanie Coulon, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva, une réalisation comme d'habitude d'Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous resterons sur le continent américain, mais avec les fondateurs d'un pays qui célèbre cette année le 400e anniversaire de sa naissance, le Québec.